Chers frères et sœurs, je vous disais donc au début de ce culte qu'il n'est pas impossible que l'ambiance qui nous réunit ce matin ne soit pas des plus fidèles par rapport à ce qu'elle était il y a un an, mais aussi par rapport à ce qu'elle était à la première Pâque. En effet, nous sommes venus plutôt avec le cœur léger, avec de l'enthousiasme, le plaisir de se retrouver, le plaisir d'entendre à nouveau quelques paroles de vie qui nous feront le plus grand bien. Et cela est tout à fait le contraire de l'état d'esprit qui a animé ces femmes du matin de Pâques. Les femmes qui se rendent au tombeau, selon l'évangéliste Marc, ne sont pas animées, comme c'est le cas pour nous, par la bonne nouvelle de Pâques. Ce n'est pas la vie malgré tout qui a fait que les femmes se sont levées ce matin-là et se sont dirigées vers le tombeau au point du jour. Parce que cette journée s'annonçait une journée sans éclat pour elle. Et c'est le premier point que j'aimerais relever. Marie-Madeleine, Marie et Salomé vont à la tombe, non pas comme les papillons attirés par la lumière, mais comme nous tous, lorsque nous sommes attirés par ce qu'il y a de plus morbide dans la vie. C'est la mort qui attire ces femmes, en fait. C'est le cadavre de Jésus qui, au sens strict du terme, les a fait se lever ce matin-là. C'est cela qui les a mis en route, un cadavre qu'il s'agissait d'embaumer. Ces femmes sont un peu comme nous lorsque nous faisons un détour pour mieux voir un accident. Nous qui sommes fascinés par un incendie qui se déclare au loin. Nous, qu'il faut bien le reconnaître, avons passé de trop longues minutes devant ce spectacle captivant de quelques catastrophes comme ces tours jumelles qui s'effondrèrent, comme quelques raz-de-marée, comme quelques catastrophes, des incidents ou alors des scènes de guerre. Comme si nous étions fascinés par ce spectacle de la vie qui se dégrade. Il faut reconnaître qu'il y a néanmoins dans cette loi naturelle qui est que ce qu'il y a de plus morbide nous attire, une exception, et une exception sur les réseaux sociaux. C'est qu'il y a un grand nombre de personnes, et cela ne laisse de m'étonner, un grand nombre de personnes qui sont attirées par les photos des petits chats et des chatons. Nous ne sommes pas toutes et tous attirés par ce qu'il y a de plus morbide. Mais c'est l'exception qui confirme la règle, je pense. Ces femmes du matin de Pâques, c'est nous, attirées par le côté morbide de la vie, ce qui se dégrade, ce qui va se dégrader, ce qui blesse, la violence, ces scènes de violence, ces scènes de harcèlement. Vous les avez peut-être vues d'ailleurs, ces caméras cachées qui montrent que lorsqu'une femme est harcelée ou malmenée sur l'espace public, tout le monde reste assez médusé, mais peut-être aussi spectateur, profitant peut-être avec une forme de joie méchante du malheur qui s'abat sur l'un d'entre nous et qui, en quelque sorte, nourrit notre existence à un moment donné. Ces femmes sont attirées par ce qui ne va pas dans le sens de la vie, d'une vie plus grande, plus épanouie, plus affermie, plus joyeuse. Ces femmes, et c'est un trait qu'il faut relever, ces femmes ne se sont pas rendues au tombeau pour vérifier la prophétie de Pâques, cette prophétie selon laquelle il fallait que le Christ meure et qu'il ressuscite 3 jours plus tard. Probablement parce que cette prophétie a été écrite bien après les événements, qu'elle est postérieure à Pâques, et donc elles n'avaient pas cela en tête. Ces femmes se sont rendues au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, pour le maintenir en l'état, pour empêcher que la poussière retourne à la poussière et vienne féconder à nouveau une nouvelle génération. Il y a une forme de fétichisme dans leur activité, une volonté de conserver intact l'objet de leur désir et de faire de Jésus un objet définitif, une relique, une sainte relique, mais une relique. Et cela indique que pour ces femmes, le corps de Jésus a finalement plus d'importance que sa vie. Cela indique que sa mort a plus d'importance que sa prédication. Cela indique que ce qu'il est devenu, un cadavre, a plus d'importance que le message qu'il a délivré et que le Dieu auquel il a rendu témoignage. À ce moment précis de l'histoire, ce n'est pas la vie qui intéresse les femmes. Ce qui les intéresse, c'est l'image qu'elle veut garder de ce Jésus, quitte à ce que cette image n'ait plus aucun rapport avec le réel. Et notons que ces femmes ne se rendent pas exactement au tombeau. Si nous ouvrons notre texte grec, nous observons que ces femmes se rendent au mémorial dans lequel Jésus a été déposé. Jésus est dans un néméion, non pas un taphos, comme c'est le mot couramment utilisé pour décrire le sépulcre. Le mnéméion, ce mot que nous connaissons bien, la mémoire, que l'on trouve dans le procédé mnémotechnique. Jésus a été enfermé dans une mémoire morte. Jésus a été comme stocké, comme archivé. Et c'est une façon, voyez-vous, de bloquer le temps, de faire en sorte que l'horloge n'avance plus. C'est aussi une façon de bloquer la vie, par conséquent. Ces femmes, à ce moment précis de la journée, sont des êtres vers la mort, pour reprendre l'expression du philosophe Martin Heidegger. Des êtres qui ont inconsciemment un goût prononcé pour la mort et pour ce qui est mortel. Mais voilà que ces femmes sont d'un seul coup entravées, empêchées dans leur élan mortel. Un jeune homme vêtu d'une robe blanche, ce qui peut faire penser à un messager divin dans l'imaginaire populaire. Un ange cherche d'abord à les rassurer de leur épouvante. Et ensuite, il leur délivre ce message capital qui est devenu le cœur même du message de Pâques. Il est ressuscité. Oui, regardez bien où on l'avait déposé. Regardez bien, on avait voulu l'enfermer à double tour. Il était là. Mais toutes vos astuces pour bloquer l'histoire n'ont rien pu faire face à la puissance de vie. La vie a été encore plus forte une fois de plus. On a voulu enfermer la vie à double tour, au fond d'un trou qui aurait pu tenir lieu de mémoire définitive. Mais la vie a été plus forte et la vie a déjà filé au loin. Elle est là-bas, en Galilée. Alors ne restez pas là à vous morfondre. Filez, vous aussi. Rendez-vous donc en Galilée, là où Jésus a rencontré des gens, là où il les a contemplés, là où il leur a parlé, là où il les a écoutés, là où il les a soignés, là où il les a aussi parfois vertement critiqués, là où il les a étonnés, là où il les a bouleversés, là où il les a encouragés, là où il a vécu, là où la vie a été rendue possible. Et au fond, quand on y pense, après avoir lu l'ensemble de l'Évangile selon Marc, il est question de naissance dans ce récit. Parce que ce que fait le messager divin, c'est de renvoyer les femmes au premier chapitre de l'Évangile selon Marc. De nouveau, intéressez-vous à ce Jésus qui a bouleversé la Galilée. C'est ainsi que commence l'Évangile de Marc, en Galilée. Le jeune homme est un ange, un messager, mais ne devrions-nous pas en parler plutôt en termes de bardes, ces personnages capables de raconter l'histoire, non pas telle qu'elle s'est déroulée, d'une façon objective, mais en étant capables de relever les points saillants qui donnent du sens et qui indiquent l'orientation d'une vie. Et cette orientation, selon ce barde du matin de Pâques, n'est pas la mort. Contrairement à tout ce que l'on pouvait imaginer jusque-là, nous ne sommes pas des êtres vers la mort. Tout n'est pas appelé à retourner au chaos. C'est peut-être cela qu'il faut d'abord retenir du message de Pâques. Nous sommes des êtres vers la vie. Et au fond, nous accomplissons notre véritable vocation, notre divine vocation, à chaque fois que nous faisons ce demi-tour, cette teshuvah, cette conversion, non plus attirés par la mort, non plus en faisant de la mort notre centre de gravité, ce qui conditionne l'ensemble de nos journées, mais que nous faisons de la vie notre horizon, ce qui nous attire inlassablement. Souvenons-nous que le nom propre de Dieu dans la langue hébraïque est construit sur un verbe, « aya », qui est conjugué à la forme inaccomplie qui signifie le présent et ce qui est à venir. Le nom propre de Dieu indique le fait d'advenir et d'advenir encore. Et cela est plus fort que toutes nos tentatives de vouloir définitivement arrêter l'histoire, de vouloir la maintenir en l'état, de vouloir faire en sorte qu'elle ne change plus parce qu'au moins, on est sûr que ce qu'on a, on pourra le garder. Mais c'est en voulant sauver sa vie qu'on la perd. Et c'est en enterrant ses talons qu'on les perd. C'est en bloquant l'histoire qu'on arrête le temps, qu'on fige la vie et qu'on meurt. Ce jeune homme est donc porteur d'une toute autre histoire que celle de ces femmes et de nous tous qui incarnons trop souvent l'être vers la mort. Ce jeune homme est précisément porteur de l'être pour la vie. Ce jeune homme est là pour susciter et pour ressusciter la vie, partout où elle est malmenée, partout où elle est jugée impossible, partout où nous pensons que nous sommes allés au bout de l'histoire, que nous sommes devant la mer de la fin, F-I-N, tels les Hébreux sortant d'Égypte. Eh bien, Yam Sof, la mer de la fin, F-I-N, Sof, ça signifie aussi les joncs, donc parfois on traduit la mer des joncs. Quand ils sont devant la passe de l'histoire, à défaut de taper du pied ou du poing sur la table, ils tapent du bâton. Et l'impasse se fendille. Et la route continue. Yallah. Ce jeune homme est donc là pour susciter et ressusciter la vie partout où nous pensons qu'il ne sera plus possible de vivre quoi que ce soit. Partout où la vie est rendue impossible, partout ce qui la rend impossible. La fatigue, la lassitude, nous en parlions tout à l'heure, mais aussi l'intolérance, la violence. Et puis, pour ce qui concerne nos assemblées, ce fâcheux conservatisme qui consiste à vouloir maintenir l'esprit de nos anciens dans le formol ou sous le vernis de la religiosité. Et alors, évidemment, nous avons à nouveau besoin des bardes qui nous disent qu'il ne faut pas faire de nos assemblées des musées avec des pièces devenues un peu poussiéreuses, une sainte poussière, mais pas la vie. Ce jeune homme est du côté de ceux qui encouragent la vie et de ceux qui ne se résignent pas, de ceux qui ne se résignent pas à l'abandon de la vie, à tout ce qui relève un peu du chaos, du tohu-bohu. Ce jeune homme est donc du côté du corps médical qui n'abandonne pas les malades à leur triste sort. Ce jeune homme est du côté de la puissance publique qui n'abandonne pas les citoyens à la dégradation de la société. Ce jeune homme est du côté des enseignants qui œuvrent pour l'éclosion de l'intelligence chez chacun. Il est du côté des théologiens qui œuvrent pour la démolition des idoles et l'éclosion de la transcendance, du goût pour ce qui a quelque chose d'un peu sacré et d'ultime dans la vie. Ce jeune homme est du côté de tous ceux qui prennent le contre-pied de l'attirance vers ce qui ne va pas, de ceux qui ont le nez rivé sur les chiffres qui indiquent le nombre de morts ici et ailleurs, parce que ce n'est pas suffisant de savoir combien il y a de gens qui meurent ici, ceux qui s'évertuent à savoir quels sont les trains qui arrivent en retard. Ce jeune homme est du côté du principe de responsabilité aussi, développé par Hans Jonas, un autre philosophe, qui disait que notre plus grande responsabilité dans la vie, c'est de faire en sorte qu'il puisse encore y avoir des responsabilités à assumer. Autrement dit, que nous soyons en mesure d'entendre des appels à la vie pour pouvoir y répondre. Nous avons une attirance naturelle vers ce qui est mortel. C'est mon premier point. Mais Pâques freine ce désir irrésistible vers l'être pour la mort. Et qu'est-ce que cela provoque? C'est le troisième point, la peur, l'effroi. Et c'est pour cela qu'il me semble que nous avons toujours dans nos assemblées un grand écart entre la foi des premiers temps et ce que nous en avons fait. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas venus avec la peur au ventre. Nous ne sommes pas venus avec cette boule qui nous fait mal et qui nous inquiète profondément. Peut-être repartirez-vous avec une forme d'effroi. J'en doute, à vrai dire. Cette responsabilité retrouvée, c'est celle d'aller dire aux disciples de Jésus que l'histoire n'est pas finie et que le mémorial n'était pas une bonne idée. Car ce n'est pas un endroit pour y placer la vie qui plaît à Dieu. Mais les femmes ne vont pas voir les disciples, selon l'évangéliste Marc, le plus ancien des évangiles que nous avons dans la Bible. Elles ont peur, elles paniquent, elles sont tétanisées. Elles sont dans un état lamentable. Voilà comment se déroule Pâques au premier temps. On ne s'embrasse pas, on ne saute pas dans les bras les uns des autres, on ne se dit pas « il est ressuscité », il est vraiment ressuscité. On se tait et on a les pétoches. Au sens strict du terme, les femmes ont une phobie, une véritable peur. C'est pas une islamophobie, c'est pas une homophobie, c'est une hégérophobie, la peur de la résurrection. On n'en parle pas beaucoup de la peur de la résurrection. Elles sont radicalement effrayées. Et c'est ainsi que se terminait l'évangile de Marc avant qu'il soit complété par une autre main. L'évangile se terminait sur cette expérience de Pâques qui provoquait la peur des premiers témoins. Et cette peur est particulièrement intéressante. C'est la peur devant l'inconnu, devant ce qui échappe au savoir, devant ce qui échappe à l'expérience. C'est la peur de celui qui ne maîtrise pas le cours des événements. C'est la peur de celui qui est saisi par la vie qui nous est toujours étrangère. Parce que quand nous savons ce qu'est la vie, eh bien ce n'est plus de la vie dont nous parlons, parce que la vie nous échappe. On pense qu'elle est là, bien archivée, et elle est déjà en Galilée. C'est la peur de celui qui est déstabilisé par la vie parce que la vie est infiniment plus étonnante, jouissive que ce que nous pouvons envisager. En conséquence de quoi, quand on est vraiment face à la vie, on perd nos repères. On constate que ce que nous tenions pour la vie jusque-là n'était que l'ombre de la vie. Ou plus exactement, pour le dire avec les mots du psaume 23, la vie placée dans la vallée de l'ombre de la mort. Et voilà ce que permet ce jeune homme de Pâques. Reprendre le psaume 23 et offrir les quelques pas qui manquent aux pèlerins de la vie pour sortir de cette vallée où règne l'ombre de la mort. Et pouvoir découvrir ce qu'est la vie en abondance. Une table face à toutes les adversités. Une tête ointe, débordante d'huile. Une coupe pleine et qui déborde, elle aussi, la vie en abondance. Non pas une vie ric-rac, une vie marquée par la transcendance. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit dit au sujet des femmes, et là aussi je reprends le terme grec, qu'elles ont subi un traumos, un traumatisme. Et on dit qu'elles tremblent, parce que le traumatisme fait trembler. Et puis on dit qu'elles sont hors d'elles-mêmes. En grec, être hors de soi, se tenir hors de soi, c'est facile. Existere, pour le dire en latin. Se tenir hors de soi, c'est exister. Ça veut dire que notre centre de gravité n'est plus en nous-mêmes, il est hors de soi. Et du coup, ça provoque un déséquilibre, un mouvement, et au lieu d'être figé sur place, on se met en route. Ainsi donc, voici des femmes qui ont subi un trauma qui a donc occasionné une brèche dans leur existence, une ouverture. Que faire de cette brèche ? Au fond, il est là le problème de toute vie. Que faire de ce traumatisme pascal ? Cela reprend la question que Moïse pose à celles et ceux qui veulent entrer en terre promise. C'est l'alternative offerte par Dieu lui-même. Voici, je mets devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Alors tu fais comme tu veux, mais le conseil, c'est plutôt de choisir la vie et de ce qui fait vivre. Et voici dans quoi ces femmes sont prises. Cette question, qui était pour elles simplement une question de catéchisme, devient la question de leur propre existence. Est-ce que nous continuons à être des êtres pour la mort, ou est-ce que nous décidons d'être des êtres pour la vie ? Voilà donc que le jeune homme du tombeau permet aux humains de faire les quelques pas qui leur manquent pour sortir de la vallée où règne l'ombre de la mort. Et pour se rendre là où le bonheur et la grâce ne sont pas simplement des belles formules religieuses, mais la vérité de chaque existence. Et la grâce, ça surabonde, et on ne sait pas qu'en faire. Ça panique. Le trauma de Pâques consiste à faire l'expérience radicale du désir de vivre. L'autre nom de Dieu. Je vous l'ai dit, le nom de Dieu, c'est advenir et faire advenir encore. Eh bien, c'est ça le désir de vivre. C'est ce qui provoque le vertige de ces femmes, le vertige de découvrir des ressources internes qu'on ne soupçonnait pas pour faire face aux catastrophes de la vie, le vertige devant tous les possibles de la vie, le vertige aussi devant tout ce qu'on n'a pas encore fait ou de tout ce qu'on a laissé filer. Et ce n'est pas un drame. Il suffit simplement de prendre cela comme des promesses qui ont été enfouies, qui ont été stockées, et que l'on peut ressusciter, que l'on peut réactiver. Au fond, tout ce qui n'a pas encore été fait est tout ce qui nous reste à faire. Alors ça fait un peu beaucoup pour ces femmes, et ça fait un peu beaucoup pour nous. Mais ensemble, on devrait y arriver. Elles ne sont pas seules, après tout. La résurrection, ici, c'est bien la résurrection de ces femmes, qui, d'être vers la mort, vont possiblement devenir des êtres vers la vie, et entraîner avec elles celles et ceux qui seront un peu intéressés par cette histoire. Et elles-mêmes deviendront les bardes, qui ressusciteront, qui exhumeront ces vieux récits symboliques qui aujourd'hui constituent la Bible, que nous lisons souvent religieusement avec le plus grand respect, mais sans nous impliquer personnellement, sans prendre ces textes suffisamment au sérieux pour voir ce qu'ils nous disent, aussi bien en termes de jugement qu'en termes de promesses. La résurrection est ici cet encouragement divin à se lancer à notre tour dans l'aventure de la vie, à rejoindre notre propre Galilée et à vivre, vraiment, selon ce que Jésus nous a montré. Vous voulez savoir ce que signifie vivre ? Reprenez donc l'évangile de Marc. C'est ce que nous dit le jeune homme. Reprenez à partir de la Galilée. Lisez, goûtez, savourez et croquez la vie. Il a ouvert un chemin d'interprétation. Il nous a précédés en Galilée pour que nous aussi, nous y allions. Là où il a montré ce que vivre veut dire. Amen.